Bonjour et merci de nous rejoindre donc dans cette quatrième émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Aujourd'hui, nous allons tenter de parler du libéralisme. Alors, c'est un peu compliqué de parler du libéralisme à notre époque parce que le terme est très souvent galvaudé, qu'il est employé à tort et à travers. Très souvent à travers. Et donc on va un peu essayer de rendre la chose ludique, surtout si vous êtes un libéral acharné, fermez cette émission parce que vous allez vous ennuyer, vous savez déjà tout. Mais pour les autres qui auraient envie d'apprendre, qui auraient envie justement d'essayer de tâtonner avec nous, voilà ce qu'on va essayer de faire, un peu à la manière d'un aveugle qui essaierait de décrire un éléphant dans un couloir. On va essayer déjà dans un premier temps avec Charles de définir tout ce que le libéralisme n'est pas. Et ça nous permettra d'arriver à la définition de ce que le libéralisme pourrait être, et en tout cas de ce qu'il est pour nous, sachant que les définitions sont souvent fluctuantes, car il faut savoir aussi qu'en tant que libéraux, dès qu'on est cinq, on se sépare par groupe de deux, en mitose inversée.
Absolument.
Donc, on va commencer par, je vais poser des questions à Charles en lui demandant ce qu'il en pense, des affirmations qu'on peut trouver à propos du libéralisme. Alors la première de celle-là. Et est-ce que le libéralisme est un produit d'importation qui nous viendrait d'Angleterre ou des États-Unis?
Pas vraiment. Il y a eu énormément de grands penseurs libéraux français. Et même, il y en a eu des Italiens, des Espagnols. Donc, c'est une façon de penser qui a été tout à fait européenne. Et comme j'ai essayé de le montrer dans un de mes livres, qui s'appelait Un libéral nommé Jésus, c'est dans le fond la seule qui soit conforme aux évangiles, parce que dans les évangiles, il y a deux messages qui ressortent très fortement. Le premier, c'est que d'abord, Dieu ne sait compter jusqu'à un, c'est-à-dire la primauté de l'individu sur la tribu. L'individu a le droit de dire, écoutez, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et il n'est pas banni pour autant. Et le deuxième, c'est la prise de risque. Parce qu'il y a très étonnant dans les évangiles, c'est que tous ceux qui prennent des risques et qui se cassent la figure, le fils prodigue, la femme adultère, tous ces gens-là, ils se font toujours pardonner. Et ceux qui ne prennent pas de risque, comme celui qui enterre son talent ou le rentier, ils se font toujours condamner. Donc, on voit bien que dans le message du christianisme original, des paroles du Christ, hein, je ne parle pas de ce qu'en a dit l'Église après, qui a été une autre histoire, mais vous avez une espèce de prééminence de l'individu, c'est-à-dire vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir ce qui vous plaira, c'est-à-dire le choix individuel, c'est vous qui le ferez, et vous en supporterez les conséquences. Et le deuxième, c'est en tout état de cause, on vous a donné des talents. Et si vous n'essayez pas de les développer, vous serez condamné. C'est-à-dire que je ne sais pas si on sera condamné à l'enfer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que celui qui ne prend pas de risque va s'ennuyer toute sa vie. C'est-à-dire qu'il va passer toute sa vie en enfer. Et c'est terrible. Donc, grosso modo, le libéralisme, c'est d'abord la traduction dans la pratique, dans la religion, d'une religion dans des faits. Et Huntington, dans son livre,
Le choc des
Le
civilisations.
choc des civilisations disait que quand on faisait les, je sais plus, le 7 ou 8, je me souviens plus très bien, civilisation, on voyait très bien, quand on posait des questions aux gens, que la civilisation, notre civilisation, la civilisation européenne, se distinguait par une espèce de d'appel forcené à l'individu. Et les gens en ont tiré comme conclusion que du coup on était égoïste, etc. Mais essayer de réclamer pour soi ce qui est le meilleur pour soi, ça n'est pas être égoïste. C'est quand les autres vous empêchent de devenir ce que vous devriez devenir, ça c'est
Non,
monstrueux.
c'est ce qu'a fait le libéralisme, c'était de libérer les individus des entraves
Des entraves et
qui
des
pouvaient être politiques ou religieuses,
et de leur famille.
de leur tribu, et de leur permettre aussi, quand tu dis d'avoir cette liberté, c'est aussi une responsabilité, parce que
Absolument.
c'est une pièce à deux faces.
Parce que ce qu'on voit très bien, encore une fois, dans les évangiles, qui est très curieux, c'est que il semble que Dieu, en tout cas d'après ce que nous dit le Christ, ait un projet pour chacun d'entre nous, individuellement. Mais il va jamais nous le dévoiler. C'est à nous de nous décarcasser pour le trouver. Et quelque part, si on le trouve et qu'on le fait bien, je crois qu'on est heureux. Si on fait quelque chose d'autre que le projet qui était l'autre, dans le fond, on est malheureux, mais on ne sait pas très bien pourquoi, quoi. On n'est pas à l'endroit où on doit être. Donc, dans le fond, une vie, c'est de chercher à voir à trouver par vous-même le projet que Dieu a pour vous, ce qui est une drôle d'idée, mais c'est, voilà. Et donc ça, je crois que ça touche profondément à l'esprit du libéralisme, c'est-à-dire que chacun doit chercher à se développer par lui-même et pour lui-même, de façon à être meilleur pour les autres. C'est le contraire de l'égoïsme, et voilà, c'est ça. Et politiquement, il s'est passé un fait. Là, je voudrais sortir de la dimension morale pour arriver à la dimension logique. C'est que quand vous êtes un corps constitué, une nation, mettons, vous avez toujours le problème de celui à qui vous avez délégué le monopole de la violence légitime. Vous savez, c'est l'État. Donc vous êtes là, vous donnez à quelqu'un le droit de vous mettre en prison, de vous couper la tête, etc. Donc une fois que vous avez donné ce droit...
Ce qui est une forme de contrat social.
De contrat social.
Alors c'était un peu ce que disait Rousseau, qui ensuite était poussé par Weber, de dire, voilà, on se met en société et on décide plus ou moins de dire l'État, régalien par régalien...
L'État, il a ses pouvoirs.
Va avoir ses pouvoirs, parce que si on le donne à des individus contractuels comme les libertariens veulent, c'est quand même un petit peu le bordel.
D'abord, ça marche moyen, et puis si on le donne à quelqu'un qui a la plus grosse massue, ça marche
là,
pas
ça
non plus.
Là, ça devient la loi de la jungle.
Là, ça devient la loi de la jungle. Mais c'est le plus fort, c'est celui qui tape le plus fort qui a le pouvoir. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais la réalité, c'est tout le problème de la science politique depuis 20 siècles, ou 22 siècles, depuis Aristote, c'est une fois qu'on a donné le pouvoir à cette entité, l'État, comment on fait après pour le contrôler, pour l'empêcher de vous martyriser?
Oui, c'était là où tu avais fait le distinguo dans un article que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut des Libertés, entre la tyrannie, l'aristocratie, la royauté, la théocratie ou la plutocratie, qui sont en gros les régimes de gouvernance que l'on peut trouver et avec lesquels il faut faire ou pas faire, essayer
donc,
de... Parce que tout a été fait par les Grecs.
Tout a été fait par les Grecs, tout a été... Sauf... comment on appelle ça? C'est le... Celui, c'est un sociologue anglais qui a sorti il y a quelques années un papier en disant que celui qui n'avait pas été pensé par Aristote, c'était la gouvernance de la... C'était l'imbécilocratie, en quelque sorte, quoi. Ce qui était un petit peu gênant.
Oh, tu peux le mettre dans la plutocratie, peut-être. C'est
c'est plutôt, voilà. Oui, il disait, c'est le régime dans lequel... Il y en a une maximum.
L'ineptocratie.
Il y en a une ineptocratie. Il y en a tout un tas qui essayent de ne pas travailler et le nombre de ceux qui veulent travailler ne cesse de diminuer. Donc ça finit en général pas très bien. C'était l'ineptocratie. Mais ça n'avait pas été prévu par Aristote. Enfin, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, la solution du libéralisme, ça a été donné par Locke et c'est une solution juridique et institutionnelle. C'est pas du tout un truc économique. C'était de dire, pour contrôler ce monstre absolu qu'est l'État, il faut contrôler le pognon qu'on lui donne, le vote des impôts. C'est-à-dire que le souverain n'a pas le droit d'augmenter les impôts simplement parce qu'il a une guerre à mener à son cousin, quoi. La deuxième chose, c'est le droit de propriété. Le souverain n'a pas le droit de vous voler ce que vous avez gagné par votre travail.
On y reviendra quand on regardera les droits naturels. Mais à partir du moment où on considère que le droit de propriété est un droit naturel, c'est-à-dire qu'il est... Il prévaut avec l'homme né, son droit de propriété né avec
absolument.
Lui. C'est
et en
un
particulier,
droit
il est propriétaire
consubstantiel
de son travail.
Voilà.
C'est-à-dire que, par exemple, l'esclavage est formellement interdit. Ça paraît logique.
D'ailleurs, Bastiat était dans les premiers à toujours s'opposer
à l'esclavage.
À la peine de mort.
Et Locke, etc. Et le troisième, ben, c'est grosso modo le premier, c'est le vote des impôts. Le deuxième, c'est la propriété. Et le troisième, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que vous essayez de bâtir un système qui est tellement bloqué, comme la Constitution américaine, qu'en principe, si vous voulez, c'est très difficile pour un fou de prendre le pouvoir et de l'exercer de façon...
Mais c'est ce qu'avait prévu Montesquieu aussi dans l'esprit
voilà,
des lois, quand
voilà,
il l'avait
exactement.
Écrit aussi en 1748.
Et tous ces principes ont été repris par toute une série de très grands penseurs français. On peut dire à la limite que le premier des libéraux, c'est Montaigne. Qui disait, dans le fond, le discours de Montaigne, c'était « laissez-moi bien tranquille, quoi. Laissez-moi bien tranquille dans mon bordelais, j'y suis très bien. » Et le grand ami de Montaigne, qui était là-bas ici, a écrit des phrases merveilleuses sur, justement, la façon d'être libre. C'est-à-dire, la seule façon d'être libre, c'est de refuser la tyrannie. Et à partir du moment où on la refuse, elle recule.
Et après, on a eu Turgot qui met en place cette chose intéressante, qui est importante pour les libéraux, qu'on appelle l'ordre spontané.
Voilà, c'est ça. Et
qui
puis,
sera un petit peu ensuite repensé par Adam Smith.
Par Adam Smith, par Hayek, par tous ces gars-là.
Mais c'est important l'ordre spontané.
Important,
alors, est-ce que tu peux parler un peu de l'ordre spontané?
Alors là, c'est une idée fondamentale du libéralisme, c'est dans le fond. Je vais raconter une anecdote, c'est que Khrouchtchev était venu à Londres. Et il avait vu des boulangeries, des magasins partout. Et donc, il avait posé la question quand il était arrivé avec le premier ministre britannique de l'époque, ça devait être Macmillan ou je sais pas qui. Et il lui avait dit, mais qui s'occupe, par exemple pour les boulangeries, de commander le blé pour qu'il arrive à temps, pour que le pain soit fourni, etc. Et Macmillan l'avait regardé avec des yeux ronds en disant, personne. Et donc, la base du libéralisme, c'est que le monde est tellement compliqué, il y a tellement de milliards de transactions à tout moment qui sont toutes menées, dans le fond, par un intérêt personnel, c'est-à-dire que je veux avoir du pain, je veux le faire, je veux le vendre, etc., que toucher à cet ordre spontané, c'est dans le fond, l'État, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Donc, il vaut mieux laisser les opérations se faire naturellement. Et j'avais un vieux professeur libéral à Toulouse, j'ai dû le raconter 20 fois déjà, qui disait, dans le fond, une société a le choix entre la main invisible d'Adam Smith, l'ordre spontané, hein, ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mais il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Donc, quelque part, le libéralisme aussi, quand il réfléchit sur l'État, parce que le libéralisme, c'est une réflexion sur l'État. Comment empêcher les gens de vous martyriser parce qu'ils ont la force et que vous ne l'avez pas. Donc le libéralisme, c'est une réflexion sur l'État. Il dit l'État est nécessaire, premier point, mais il faut quand même... Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par le marché. Et ce qu'on appelle les fameux systèmes régaliens, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée et la diplomatie. Et ça, ces quatre régaliens doivent être donc du ressort de l'État. Et ça ne peut pas être de marché, parce qu'on ne peut pas avoir une police privée, parce que dans ce cas-là, si vous avez des polices privées, c'est celui qui paiera le plus, qui aura la meilleure police, et on se retrouvera quelque part en Sicile, quoi, avec la mafia. Donc il faut bien... La difficulté dans le libéralisme, c'est qu'il faut à la fois accepter l'État et le contrôler. Et c'est là
je
où...
Je pense qu'il y a autre chose dans le libéralisme, on en parlait hier, mais c'est d'avoir quelque part l'immense pudeur,
oui,
de se dire, après tout...
Je ne comprends rien.
Après tout, non mais après tout, qui suis-je pour prétendre régenter la vie des gens? Qui suis-je moi aujourd'hui pour dire, tiens, je vais faire partir d'un état stratège qui va décider de ceci ou cela? Mais non, quel phénomène me permet de dire qu'on aurait quelque part une compétence supérieure à celle d'un marché spontané qui, depuis la nuit des temps, trouve son compte?
Oui, d'ailleurs, le marché est tout à fait spontané, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'ai eu des petites filles, des filles et des petites filles, et en particulier les petites filles, dès que vous les laissez jouer les unes avec les autres, elles ont tendance à jouer à la marchande. Elles ont une espèce de truc où il y a des fausses bananes, des fausses pommes, elles échangent ça. Je crois que cet acte d'échange volontaire, par lequel on achète la faveur de quelqu'un d'autre, mais aussi en lui vendant quelque chose que l'autre désire.
Mais c'est très amusant, déjà, moi j'adore vendre.
Ben exactement.
Je suis une terrible acheteuse, mais une très bonne vendeuse. Mais c'est très amusant de vendre.
Mais c'est très amusant parce qu'on a l'impression qu'on fait plaisir à l'autre, qu'on se donne du mal pour lui trouver ce dont il a besoin, et il en est reconnaissant. Et je crois que finalement, Milton Friedman, toujours lui, je sais, c'était un très méchant, mais ça fait rien, il était très compétent. Milton Friedman disait, il y a une chose que les animaux ne font pas, ils sont jaloux, ils se marrent, ils font des blagues, ils ont tous les trucs qu'on a nous, mais ils ne font jamais de commerce. L'acte commercial, c'est dans lequel on introduit le temps, j'échange mes cacahuètes, parce que j'en ai trop pour cet hiver, mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'autre en échange, donc c'est un acte qui est purement humain. Dans le fond, il disait, l'homme se reconnaît par le commerce.
Alors, c'est vrai, sauf qu'il y a quelques animaux qui apportent des cadeaux aux femelles.
Oui, pour avoir des faveurs.
Pour avoir des faveurs. Ça, on peut qualifier ça d'échange.
Oui, mais c'est dans l'instant. C'est dans l'instant.
C'est très mal intentionné.
C'est très mal intentionné. De toute façon, le but est immonde. C'est de transmettre...
Oui, l'effort très bref.
Et la position ridicule, comme disait l'aristocrate anglais. Donc, oui, il y a eu beaucoup de penseurs français. Et l'un des plus intéressants... dans le style ordre naturel, c'est quand même Bastiat. Bastiat, d'abord, il écrit un français ravissant, dans l'harmonie économique, et comme seuls les gens l'écrivaient au 18e, au 19e, enfin, il écrivait un français prodigieux. Et ensuite, Bastiat, il a parfaitement compris ce côté, il appelle ça les harmonies économiques. Et il dit, ça marche parce que c'est quasiment la meilleure façon d'organiser les choses. Et c'est comme ça que les coûts sont les plus faibles et qu'il y a le moins de loupés. Et pour ceux qui veulent comprendre, dans le fond, à quel point le libéralisme est un ordre logique et qui satisfait le maximum de personnes à la fois, eh bien, je crois que pour les Français, il faut lire Bastiat. Bastiat, c'est vraiment... D'abord parce que c'est leur appartement à écrire, et ensuite parce qu'il est marrant comme tout. Il est rigolo comme tout. Il fait des blagues... Bref.
Alors, je vais enchaîner. On continue donc dans notre liste de questions de tout ce que le libéralisme n'est pas, afin de le définir.
Donc le libéralisme, ça n'est pas une doctrine économique.
Voilà. Alors non, attends, on y arrive, justement, parce que là, on avait répondu, est-ce que le libéralisme est un produit d'importation? Donc on a dit non, on a répondu Montesquieu 1748, Turgot, Condorcet. Est-ce que c'est incompatible avec le catholicisme? Non, puisque je t'ai
ça
même pas posé
direct.
La question, puisque tu
J'ai
l'as
répondu.
Vu. Tu as commencé par ça, mais à l'origine, c'était parce que c'est né d'une incompréhension du texte de Max Weber qui disait que, quelque part, le libéralisme était très bien adapté au monde protestant, mais pour autant ne disait pas que ça n'était pas adapté au monde catholique.
Et puis, il ne faut pas oublier que tout le développement qui a été prodigieux des machineries du 11e, du bas Moyen-Âge, du 10e jusqu'au 15e, ça a été fait par les ordres monastiques.
Et l'école de Salamon.
Et l'école de Salamon qui avait théorisé la valeur subjective, comme ensuite les Autrichiens.
Mais il y avait beaucoup, dans l'école de Salamon, il y avait énormément de moines.
Je crois que c'était des jésuites, l'école de Salamon. Des jésuites. Mais les moines, c'est ceux qui ont fait la première accumulation du capital. Pour changer la rentabilité future. Donc, ce que faisaient les moines, c'est comme ils n'étaient pas payés, ils travaillaient comme des fous toute la journée, puis ils priaient toute la nuit, ce qui fait qu'ils devaient être fatigués quand même, les pauvres. Et ils ont asséché des marais. Donc, quand vous voyez une abbaye quelque part, en général, d'ailleurs, c'est dans un endroit qui est d'une beauté stupéfiante. Ils ne mettaient pas leur abbaye dans un endroit pourri, quoi. Donc, le premier grande accumulation du capital, c'est passé par les ordres monastiques. Et il y a des gens qui disent
que... Et la transmission aussi, la connaissance.
Ils écrivaient tout. Et ensuite, il n'y avait pas de problème de rupture de transmission héréditaire, parce que ça passait aux moines, ça restait aux moines, quoi. Ça passait pas au fils qui divisait en cinq. Donc c'était... Et il y a des tas de gens, par exemple, qui disent qu'Henri VIII, en piquant tous les biens de l'église catholique en Angleterre au moment où il a créé la religion anglicane, il a piqué tout ce capital, et c'est ce qui a permis ensuite le développement de l'Angleterre. Il a privatisé tout ce capital.
D'accord.
C'était une incidente, mais c'est amusant.
Enfin, il a privatisé, il est nationalisé.
D'abord,
à
son profit, mais ensuite, il l'a donné à tous ses...
À tous ses copains.
À tous ses copains, c'est...
À tous ses...
Comment on appelle ça? Les oligarques de l'époque.
Alors, troisième question. Certains penseurs italiens étaient allés jusqu'à former le mot de libérisme au 19e siècle en caricaturant l'homo economicus. Donc, est-ce que tu peux répondre à la question, le libéralisme est-il un économisme?
Alors, là, encore une fois, il faut revenir un petit peu en arrière. En revenant à Locke, qui met ses trois principes essentiels, donc contrôle de la dépense, propriété privée, séparation des pouvoirs. Bon, c'est... Et ça se passe vers 1700, allez, 1680, 1700. Et bon, ensuite, un siècle après, commence la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Et donc, je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la pérennité du droit de propriété, la justice indépendante du pouvoir politique, le contrôle des dépenses de l'État pour éviter les gaspillages.
Parce qu'on oublie de parler de la Magna Carta.
Voilà, ça c'était bien avant, c'était en
1200. Oui, mais
en Angleterre, ça a monté loin, ça revient très loin. Ça a remonté à Jean Santerre. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on s'est rendu compte que si on avait stabilité du droit, en particulier du droit de propriété, si on avait séparation des pouvoirs et contrôle des dépenses de l'État, l'économie se mettait à croître. Parce que les gens pouvaient prendre des décisions à très long terme.
Faisait entrer le temps dans l'équation.
Dans l'équation, exactement. Et donc, ce qui s'est passé, qui était fascinant, c'est que La plupart des décisions économiques jusqu'à cette période se prenaient avec un horizon de temps de 3 à 5 ans, c'était le maximum, parce que si ça se développait trop, on risquait de se faire voler, enfin bref, tout le monde était à court terme. Et puis à partir de ce moment-là, on a pu littéralement envisager des investissements comme les canaux, les chemins de fer, etc., qui avaient une durée de vie en siècles. Et donc, ça
compte. Là, on est au quoi ?
Il y a eu les guerres napoléoniennes et la Révolution française qui ont foutu un peu. Ça a commencé vers 1815-1820, mettons. Et donc, vous avez cette immense explosion des dépenses à très long terme et de l'épargne à très long terme. C'est-à-dire qu'il y a une épargne qui s'est spécialisée pour investir à 40-50 ans. Alors qu'avant, tout le monde investissait à 3-5 ans parce que c'était le maximum qu'on pouvait prendre, si le droit changeait, etc. Et ça a été une révolution profonde. D'un seul coup, les gens ont fait rentrer non plus les jours, mais les siècles pour investir. Et ça a tout changé. Et c'est pour ça que, quelque part, je gueule comme un âne contre les taux négatifs, parce que les taux négatifs, ça tue cette épargne à long terme qui avait été créée par Locke. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on en est essayé de détruire les efforts de Locke pour maintenir un État qui est en train de devenir fou. C'est-à-dire qu'on ne réussit plus aujourd'hui à contrôler l'État selon les règles de Locke. Ils les ont toutes tournées. Puisque l'impôt n'est pas voté, on emprunte. Le droit de propriété n'est pas respecté puisqu'on taxe à 100%. La séparation des pouvoirs n'existe plus, puisqu'on le voit bien par exemple. En Europe, il n'y a aucun des traités qui a été respecté, etc. Donc, on est, grosso modo, la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est une inversion totale du libéralisme. Et le paradoxe est que les gens appellent ça le néolibéralisme.
On y reviendra sur
l'histoire
du paradoxe.
C'est du grand n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est 180 degrés vis-à-vis du libéralisme.
Alors, ce que disait Hayek, et je pense que, en fait, l'économie qui rentre dans la valeur libéralisme, c'est simplement que, il se trouve que c'est le seul outil, puisque c'est le capitalisme, mais c'est le seul outil qui permet le bien-être du plus grand nombre.
Oui.
Alors, on a un apport juridique très important, car le libéralisme, encore une fois, repose sur des prémices juridiques, sur la primauté de l'individu, sur le respect des lois. Et à cela, effectivement, une économie forte, développée. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que c'est ainsi que l'on arrivait au bien-être du plus grand nombre. C'est ce que disait John Rawls et ce que tu écrivais dans un papier. C'était que c'était simplement le système qui permettait l'accès au bien-être du plus grand nombre.
Du plus grand nombre.
L'histoire.
Alors, John Rawls, c'était un philosophe américain qui a enseigné à Harvard, qui est mort il y a une vingtaine d'années, et qui, lui, réfléchissait sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, vous savez, le libéralisme, c'est une branche de la logique, qui est elle-même une branche de la philosophie, et dans la philosophie, vous avez aussi la morale, qui était un truc important aussi. Et la morale, John Rawls réfléchissait sur comment peut-on dire si un régime économique et politique est juste.
Si les gens sont heureux.
Alors,
d'abord,
si les gens sont heureux, les gens les plus heureux au monde aujourd'hui sont les Danois, mais c'est difficile de mesurer le bonheur.
Quand on dit heureux, c'est-à-dire avec une vision à long terme, une pérennité, pas de guerre,
c'est ça.
Le moins de maladies possible.
Des conditions
objectives.
Alors, ce que disait John Rawls, qui était assez intéressant, il disait une société est juste si le sort des plus défavorisés ne cesse de s'améliorer au travers du temps.
C'est vrai.
Donc, on prend, mettons, les 20% les plus pauvres, et puis on essaye de regarder le fil de leurs revenus. Et si ça monte sans arrêt, c'est une société juste. Et si les gens tout en haut s'en mettent plein les fouilles, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que dans le fond, les gens en bas... Mais par contre, ce qui est complètement inacceptable, c'est une société où les riches s'en mettent plein les fouilles et où les pauvres s'appauvrissent. Alors ça, c'est une société qui n'est pas tenable.
Est-ce qu'on n'a pas un peu ça en ce moment ?
On a complètement ça en ce moment, puisque justement, j'essaie de le dire, les taux d'intérêt négatifs, ça favorise les riches, ceux qui ont des actifs, qui peuvent emprunter pour acheter des actifs.
En hypothéquant
les autres actifs. Et du coup, mais ils ne créent pas de nouveaux actifs. Ils ne sont pas des entrepreneurs. Ils sont des gars qui spéculent. Mais ça, donc, les riches deviennent plus riches parce que le prix des actifs monte. Mais les pauvres deviennent plus pauvres parce que comme plus personne n'investit, la productivité baisse et le niveau de vie des pauvres baisse. Et donc, la politique suivie, par exemple, dans l'euro à l'heure actuelle, est une politique qui, aux yeux de John Rawls, est un vrai désastre, puisque les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.
Et n'est absolument pas libérale. Les gens qui nous disent que c'est une politique libérale, regardez-nous bien.
Non seulement ça, parce que comment voulez-vous parler d'une politique libérale quand vous n'avez pas de prix de marché? En principe, la politique libérale, c'est que le... Il faut faire une petite distinction ici que je vais essayer d'expliquer. Vous avez deux choses. Vous avez la valeur et vous avez le prix. Bon, mettons que, je sais pas, il y a un livre que j'aime beaucoup et que je ne réussis plus à trouver parce qu'il est épuisé, comme un de ceux qui sont là, qui est là sur la table, je serais probablement prêt à payer beaucoup plus que le prix qu'il y a sur la couverture pour avoir ce livre. Parce que pour moi, il a une valeur beaucoup plus importante. Quand deux valeurs se rencontrent, le gars qui a ça dans sa bibliothèque et qui l'a jamais lu, qui en a rien à foutre, et moi qui l'achète plus cher, ça crée un prix. Et ce prix, les deux sont gagnants, puisque c'est un truc volontaire. Donc, il faut pas confondre la valeur et le prix. Vous avez des milliards, des dizaines de milliards de valeurs qui se baladent dans l'éther des gens, comme ça dans la tête. Et puis, vous avez un prix qui se fixe, mais qui est un prix qui ne se prie qu'à ce moment-là. Demain, ça sera plus le bon prix. Mais puis, c'est peut-être un prix. Hein. Donc, pour qu'il y ait une société juste, il faut que les gens puissent exprimer leurs valeurs par l'intermédiaire des prix. C'est-à-dire qu'il faut que les prix soient libres. Or, aujourd'hui, on a quasiment plus de prix libres. Par exemple, en France, aujourd'hui, avec l'État à 61% du PIB, vous pouvez dire que 61% de ce que vous achetez avec votre argent est fait par l'État à des prix qui ne sont pas des prix de marché. La sécu, vous n'avez pas de prix de marché. L'éducation, vous n'avez pas de prix de marché. Donc, on se retrouve dans un monde où plus vous mettez l'État, moins il y a de liberté. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez soit avec des files d'attente, soit avec des surplus. Et ça marche pas, parce que le prix de marché, c'est l'endroit où l'offre égale la demande, quoi, en principe. C'est comme ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme et le libéralisme sont des systèmes qui se trompent tout le temps et sans arrêt. Mais ils essayent sans arrêt de trouver un équilibre. Ils avancent doucement.
Ils sont toujours en correction.
On n'est jamais au bon niveau, mais enfin, on essaye de le trouver sans arrêt. Tandis que le socialisme, lui, il bouge pas, parce qu'il est faux, jusqu'au moment où il s'écroule. C'est-à-dire que nous, on prend des tas de petites claques sans arrêt qui nous permettent de... Bon, c'est pas grave, mais enfin...
C'était quoi déjà? Si ça fonctionne, taxez-le. Si ça bouge encore, retaxez-le.
Non, et si ça commence à ralentir, il faut le subventionner. Et si ça bouge plus du tout, vous le nationalisez. Quoi, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le socialisme. Mais ce que ça veut dire, c'est que... Encore une fois, on retrouve cette idée de modestie du libéralisme, c'est que on n'est jamais certain que ce qu'on a aujourd'hui est ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, on y bosse. Si c'est pas bien, on va peut-être essayer d'améliorer. Et c'est tout le rôle de l'entrepreneur, c'est de comprendre où les besoins vont croître, où les besoins vont décroître. Et la deuxième chose, c'est que dans le libéralisme, on accepte la faillite. On accepte la fermeture, on accepte l'erreur, on dit les gars, je me suis planté, je peux pas vous rembourser, bon ben, bad luck.
C'est pour ça qu'il est aussi injuste, souvent les termes sont mal compris, sûrement à cause du discours de Hayek, « Why am I not a conservative ?»
Oui.
Mais le libéral n'est pas conservateur dans le sens mis sur ses plateaux, enfin impossible à bouger, inamovible, sur des principes.
Tout.
Parce que, au contraire, tu viens de le dire, il est tout le temps dans la remise en question, tout le temps avec l'envie de changer, de s'adapter et ainsi de suite. On va y revenir, mais ce concept, je crois que le discours de Hayek a été mal compris. Pourquoi aussi? Parce que le terme de conservateur en français et en anglo-saxon n'est pas du tout le même sens. Donc on a une espèce de faux ami. Dans ces termes-là, qui souvent peuvent aussi dire « oui, le libéral est forcément progressiste », je ne crois pas. Mais on va y revenir, c'était juste aparté, parce que là, tu m'avais fait une parenthèse.
C'est tout à fait exact. Au 19e, mettons en 1860, par là, vous aviez trois personnes qui discutaient de politique. Vous aviez le socialiste ou le communiste, c'est-à-dire la propriété privée est supprimée. Vous aviez le conservateur, qui trouvait qu'il avait des très beaux domaines et ce serait dommage qu'on lui pique, quoi. Et puis le libéral, qui dans le fond disait, ben, il faut trouver une façon de dynamiser tout ça, et il faut qu'il y ait des sanctions pour les rentiers. Le danger du conservateur, c'est qu'il favorisera assez facilement les rentiers. C'est-à-dire parce que ben, lui, il en est un. Donc, tandis que l'entrepreneur, lui, enfin, comme je l'ai toujours dit, c'est un fou profond, donc il va toujours mettre en risque ce qu'il a fait. Mais il ne faut pas non plus empêcher le rentier d'exister, parce que c'est lui dont l'épargne va permettre à l'entrepreneur de gagner de l'argent. Donc, une société, c'est un équilibre entre trois joueurs, le rentier, l'entrepreneur et le travailleur. Quoi. C'est le travail, le capital et le risque. On retrouve toujours les mêmes trois facteurs.
Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que le libéralisme serait immoral ?
Alors, je vais leur poser une question. Comme en bon élève des jésuites que j'ai été, même si j'étais un très mauvais élève, la plupart d'entre les auditeurs doivent connaître la parabole des talents. Bon, vous savez, la parabole des talents, il y a le maître qui donne 4 talents à un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième, et il s'en va pour longtemps. Et il leur dit, bon, vous dépatouillez avec ces talents, donc c'est dans le fond les qualités que vous avez reçues. Et puis ensuite, quand le maître revient, il y a le premier qui avait reçu 4, il en avait gagné 4, le deuxième, il en avait gagné 2, et le troisième, il avait enterré son talent, et il rend le talent en disant, voilà, tu es un maître dur. Je sais que tu es un maître dur, donc j'ai eu peur et j'ai enterré mon talent. Je te le rends, je ne te dois rien. Et hop, il est envoyé en enfer. Ce que fait nos systèmes actuels, c'est que dans le fond, ils prennent au gars qui a bossé comme un fou et qui a gagné 4 talents pour le donner au gars qui a un talent. Est-ce que c'est un système juste ?
Oui, mais alors, on va te dire... Oui, mais alors, celui qui a enterré son talent, ou, imaginons, quelqu'un arrive, il a 0 talent. Tu vas pas le laisser crever de faim non plus.
Non, mais ça, 0 talent, à ce moment-là, il y a des... faut pas oublier que les hospices de vieillards, les hôpitaux, les universités, les écoles, tout ça, ça a été créé par l'Église catholique pour...
En fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément à l'État... En fait, dans une société juste, dans une société ordonnée, on s'occupe de ses pauvres.
Ben, on s'occupe de ses
en
pauvres.
En proximité.
En proximité. Et le vrai danger, c'est que, bon, si c'est l'État qui s'en occupe, très bien, il distribue
quand
de l'argent.
Quand je dis les pauvres, c'est les gens avec zéro talent.
Zéro talent. Mais je ne sais pas si ça existe, des gens avec zéro talent. Mais...
Si, parce que tu as des gens qui peuvent naître différents.
Oui,
avec,
absolument.
Voilà,
mais bref, mais c'est quand même une très... Mais si...
On est sur un epsilon, mais
on
quand
est sur
même.
Un epsilon, bon. Mais... Imaginons, tu veux t'occuper des pauvres dans ta région et tu veux donner de l'argent. Si l'État te le prend, compte tenu de la machine étatique pour distribuer cet argent, le pauvre va toucher, d'après les calculs les meilleurs, à peu près, dans le meilleur des cas, 5% de ce que tu auras payé. 95% ira à faire tourner la machine.
Oui, c'est ce qu'on voit quand on regarde les comptes de Croix-Rouge ou de choses comme
absolument,
ça. 80% va en frais internes.
Interne.
Les bureaux, les voyages, des huiles et ainsi de suite. On l'a vu pour Haïti, c'était...
Pour Haïti,
c'était
on avait fait un film dessus, c'était un vrai scandale. Quand il y avait eu le tremblement de terre à Haïti, ça avait été une vraie monstruosité. Bref, mais si je donne ça aux petites sœurs des pauvres qui ont un couvent pas loin de chez moi, il y en a 95% qui arrivent aux pauvres. Donc, encore une fois... Il semble que... Pourquoi ? Parce que les petites sœurs des pauvres ne sont pas payées. Elles acceptent de faire ça, comme Mère Teresa.
C'est ce que peut dire un type comme un écrivain comme Roger Scruton quand il pense, et je pense aussi fermement, que la proximité, le fait de connaître les gens humainement, crée des liens et que forcément ça marche toujours mieux que des choses qui viennent de façon abstraite, avec des gens qui n'ont qu'une implication locale et qui ne connaissent pas, et ainsi de suite. Et c'est ce que dit aussi Nassim Taleb,
ouais,
que j'aime beaucoup, qui est de dire, moi je ne fais confiance qu'à des gens, qu'à des fonctionnaires qui boivent la même eau que la mienne.
Exactement.
Et c'est vrai que
donc, le problème...
la plupart du temps, les décisions qui sont prises à 800 km de toi, sans avoir connaissance de ta réalité de terrain...
Bien sûr. Ben, c'est un gaspillage pas croyable. C'est-à-dire, là, encore une fois, je vais me faire mal voir, décidément, j'ai encore parlé de Milton Friedman, je suis confus. Mais Milton Friedman disait, il y a 4 façons de dépenser du pognon. Hein. Soit vous dépensez du pognon que vous avez gagné. En ce moment-là, en général, c'est pas trop mal. Quoi. Vous le dépensez assez habilement, quoi. Vous faites bien attention. Ou bien alors, vous dépensez du pognon, avec l'argent que vous avez gagné, pour quelqu'un d'autre. Par exemple, vous offrez des fleurs ou une bague à votre femme. Et vous rentrez, et elle vous dit, mais qu'est-ce que t'as fait encore, quoi,
oui.
Donc c'est pas sûr que ce soit si bien dépensé que ça. Bref, c'était un... Ou bien alors, vous gagnez du pognon que quelqu'un d'autre, vous dépensez du pognon que quelqu'un d'autre a gagné. Et alors là, bon, ben, vous retrouvez par exemple dans le système de l'héritage. Il n'est pas prouvé que les héritiers dépensent le pognon de leurs ancêtres avec beaucoup de talent. Quoi. Enfin, ça, c'est leur problème. Hein, c'est... Et la quatrième série de pognons, c'est du pognon que vous n'avez pas gagné, que vous distribuez pour des gens que vous connaissez pas. Et là, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment ça marche jamais. Ça s'appelle le socialisme. Et donc, grosso modo, il faudrait...
Et ça ne fonctionne jusqu'à ce qu'on arrive au moment qu'on n'a plus le pognon des autres.
On n'a plus le pognon des autres. C'est ce que disait Thatcher. Quand il n'y a plus le pognon, quand on ne peut plus piquer le pognon des autres, le socialisme s'arrête. Donc, grosso modo, c'est ça le vrai problème. C'est, et en plus, si vous distribuez du pognon que vous n'avez pas gagné à des gens qui ne l'ont pas, que vous ne connaissez pas, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une classe de gens qui va se créer, qui sera ceux qui distribuent le pognon, et puis une classe de gens qui va se créer aussi, qui sont ceux qui le reçoivent. Et tous les deux ne font rien d'utile, et ils peuvent pas faire faillite, puisque ce sont des institutions étatiques. Et donc, vous vous retrouvez avec le paradoxe de distribuer de plus en plus de pognon, d'avoir de plus en plus de pauvres, et de plus en plus de... Donc, on arrive à un problème essentiel, qui est celui de comment aider ceux qui n'ont pas envie de travailler, ou qui ne travaillent pas, ou qui ne peuvent pas travailler. Et là aussi, il y a eu beaucoup de solutions qui ont été présentées, qui sont parfois très bonnes. Mais celle de prendre à ceux qui gagnent vraiment de l'argent pour le donner à ceux qui sont incapables d'en gagner ou qui n'ont pas envie de travailler, ça me paraît pas une solution juste. C'est une solution qui vous permet d'être élu, mais ça n'est pas juste. C'est de la démagogie.
Sur l'idée de libéralisme immoral, j'avais noté une phrase de Raymond Aron qui avait distingué en 69 la liberté libérale de la liberté libertaire. Et aujourd'hui encore, chez les libéraux, effectivement, on a toute une frange qui peuvent être plutôt, et je pense que quand les gens font référence à Macron, on est dans un libéralisme libertaire, si toutefois il puisse y avoir libéralisme, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait aucun relatif... Enfin, il faut bien voir que les libéraux ont attaché leur nom à la liberté, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont accepté un quelconque relativisme moral.
Absolument.
En vérité, au contraire, le libéral, en considérant que l'individu est à la source de tout, refuse l'espèce de notion presque holiste que la nation, l'État, pourrait décider de la morale de groupe. Non, la morale n'est jamais qu'individuelle, et en tant que ça, le libéral va dire « non, je refuse, quelque part, une collectivité morale, la moralité collective ».
Collectif, ça n'existe pas. Il ne faut pas oublier que le libéral, dans la mesure où il est chrétien, pense qu'il sera jugé individuellement. On ne va pas être jugé par paquet de 50. Bon, les entrepreneurs là, les syndicalistes là, vous rentrez dans l'enfer, vous allez au paradis. C'est pas comme ça que ça se passe. On regardera ce qu'on a reçu et on sera jugé en fonction de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu, ce qui est d'ailleurs terrifiant. Mais l'idée que un libéral est automatique, par exemple, il y a une différence monstrueuse entre un libéral économique, j'allais dire puritain, parce que souvent c'est le cas. Ils sont pas marrants, hein. C'est pas des gens rigolos
les Autrichiens
ou les libéraux. Les libéraux, c'est des bonnets de nuit, si j'ose dire. Et puis, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, il est libéral moralement.
C'est un libertaire, c'est pas un libéral.
Et on a confondu les deux, et ça a été une des grandes erreurs.
Déjà, ils ont confondu liberté et licence.
Ils ont confondu liberté et licence.
À la source, là. Et en plus, ils n'ont rien de libéral.
Ils permettent à la loi d'aller dans des endroits où elle ne devrait pas aller. Je pense par exemple à quelque chose comme l'euthanasie. Pour moi, il y a des endroits où la loi n'a pas le droit d'aller.
Mmh. Oui. Attends, j'avais noté une phrase sur ça. Évidemment, je ne la retrouve plus. Voilà. C'était juste dans l'idée de modeler la société, et en général, le libéral s'y refuse.
Il n'a aucune idée de la façon où la société va évoluer.
Donc, effectivement, quand on a des réformes, pour nous libéraux, qui arrivent, comme la GPA, quand c'est une réforme qui vient structurellement de la base, c'est-à-dire qui est montée avec le temps, prenons plutôt l'avortement dans ces cas-là, qui est arrivé par une espèce de demande républicaine à force, au travers du temps, à peu près dans la même époque pour tous nos pays européens, on peut considérer, en faisant fi absolument de toute foi, et là, simplement objectivement, que c'est arrivé par la base et que c'était une décision qui, juridiquement, pouvait avoir un sens à ce moment-là. En revanche, effectivement, aujourd'hui, on voit que des décisions sont prises pour la GPA et ainsi de suite par des gouvernements, et on a plus l'impression que ça répond à une volonté politique, d'ailleurs ça répond à une volonté politique, que véritablement une demande de la base, parce que la base n'est pas majoritaire sur ça.
C'est là où, justement, c'est derrière le libéralisme, il y a quand même quelque chose de très profond, c'est qu'il y a un souverain. Et que le souverain, c'est le peuple. Et on arrive à ça par des élections, on arrive à ça par toute une série de... Mais les gens qui... Là, je reprends une analyse de Bock-Côté qui est tout à fait remarquable. Il dit, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la démocratie, ce n'est plus la volonté de la majorité. La démocratie, c'est dans le fond des minorités organisées qui prennent le contrôle du système médiatique et parfois politique et qui s'appuient sur des tribunaux qui ne représentent plus la volonté populaire, qui peuvent d'ailleurs être extérieurs à un pays, comme les cours européennes de justice, qui ne répondent plus à personne. Et donc vous avez une espèce de glissement où la démocratie, ça devient la protection des minorités par des tribunaux au détriment de la majorité. Donc le souverain n'existe plus.
N'existe plus.
Et donc vous ne pouvez pas avoir de libéralisme s'il n'y a pas un souverain, en particulier s'il n'y a pas un droit. Le droit, c'est le droit. C'est en principe, c'est le peuple qui exprime ses droits au travers de ses élus et qui fait... Donc c'est une espèce de construction par la base, comme tu l'as dit. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on a. On a au contraire des captures de poches de droit pour empêcher la majorité d'expliquer ce qu'elle veut. Et je crois que c'est un des...
C'est une tyrannie de la minorité.
Appuyée sur les tribunaux. Et qui souvent sont extraterritoriaux. Donc on peut pas... Donc on est en train d'arriver dans une situation qui est complètement bizarre, où la majorité de la population n'est plus jamais consultée.
Et quand elle s'exprime,
parce que quand même les gens sont...
Les gens sont exprimés, par exemple, pour la manif pour tous, oui, ou différentes choses. Quand elle s'exprime, de toute façon, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue,
On ne peut pas virer les gens qui nous ont élus. On ne peut pas les virer, puisque ces prises de pouvoir ont été faites. Donc la seule façon, c'est de réapatrier le droit. C'est ce qu'ont fait les Anglais, c'est qu'ils ont dit, si ça vous fait rien, nos lois, à partir de maintenant, elles continueront comme depuis toujours à être votées par le Parlement et par le Parlement seul. Nous ne reconnaissons la souveraineté sur nos lois de personne. La Cour européenne de justice, tout ça, allez vous faire cuire un œuf, ça ne regarde pas.
Je comprends pas comment... alors là, je vais parler à parté en tant que juriste, mais alors que nous avions un pays avec des professeurs de droit tellement splendide, avec un droit positif tellement riche, un droit constitutionnel tellement riche, comment... Est-ce que, alors, les pauvres profs, effectivement, ont été noyés, parce que c'est ce que tu dis toujours, que les professeurs, il y a 50 ans, dans une ville comme Bordeaux, être professeur, tenir la chaire de droit constitutionnel, on était une huile.
C'était un des grands, vous aviez le préfet, vous aviez les deux ou trois professeurs de droit. C'était beaucoup plus important d'être professeur de droit dans ma jeunesse.
Que d'être journaliste.
Mais que d'être
énarque. Passer à la télé, oui.
Que d'être énarque. Oui, quand j'avais 50 ans, les énarques, je ne savais même pas qui c'était. C'était des wagons de cuir qui étaient à Paris, mais qui ne m'intéressaient pas du tout.
Alors qu'un agrégé de droit, tout de suite...
Pour moi, un agrégé de droit, c'était le... Il n'y avait rien de plus beau dans l'univers. Quoi. J'ai failli d'ailleurs me dire, tiens, je vais faire une agrégation d'économie. Puis non, je n'ai pas fait, heureusement. Mais donc, en l'espace de 50 ans, on a transformé des lumières, des types qui étaient... Et qui arrivaient de la province. Qui étaient pas des Parisiens, qui passaient,
ils arrivaient. Oui, et du coup, il y en avait deux par le territoire.
Il y en avait deux par le territoire. Et le type lisait le droit pas tout à fait de la même façon à Strasbourg qu'à Toulouse, pour des raisons historiques. Donc c'était très intéressant. C'était une vraie richesse. Donc on a coulé tout ça et on l'a remplacé par ce que j'appelle des petits hommes gris. Les petits hommes gris, vous savez, c'est ceux qui, dans le fond, n'ont aucun pouvoir si ce n'est de se rassembler entre petits hommes gris pour tuer les...
Et de faire des alinéas.
Et faire des alinéas.
Article
et tuer
37,
les lions.
Alinéa 6.
Et tuer les lions, si vous voulez. Ils se mettent tous ensemble.
Bah, les lions sont désespérés, après ils deviennent neurasthéniques.
Bah, ils deviennent neurasthéniques et puis ils vont se retirer quelque part. Mais on a quelques exemples de gens que tu connais qui veulent se présenter aux élections. Et chaque fois qu'ils essayent de se présenter aux élections, il y a immédiatement, comme ils ont énormément de personnalités, un rassemblement des petits hommes gris pour les liquider tout de suite.
Alors je me rends compte, parce que j'ai mal géré mes pages, qu'on est passé à côté de cette question quand même absolument fondamentale de la cordaire, du renard libre dans le poulailler, donc de le libéralisme est-il un anarchisme sauvage? Et ça, il faut quand même qu'on la traite.
Mais non,
Orbi à Torbi. Donc le libéralisme, Charles, est-il un anarchisme sauvage? Est-ce qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances si on laisse le marché être?
Si on laisse...
Est-ce que si l'État ne nous protège pas, on va tous crever la gueule ouverte?
D'abord, l'État ne nous protège pas. Regardons le XXe siècle. Allez, ça a été le siècle des crimes de l'État. Si vous voulez, entre le fascisme, le nazisme, le communisme, les morts se comptent par centaines de millions. Donc, attendre de l'État qui vous protège, ce que disait Benjamin Franklin, il disait « La démocratie, c'est quand deux loups votent avec un agneau pour savoir ce qu'il y aura à déjeuner. » Bon, ça, c'est ce qu'on a eu, nous. Et il disait « La République, c'est quand l'agneau est puissamment armé. » Donc, il ne faut pas oublier que le principal ennemi de tout citoyen, comme disait Saint-Just, qui était pourtant révolutionnaire, c'est son État. Donc, confier la garde du citoyen à l'État, c'est dans le fond donner les clés de son cellier, son bar à vin, à un alcoolique. On sait très bien, on le voit très bien à l'occasion du Covid, que dès qu'il peut, il se prend des tas de droits qu'il n'aurait pas le droit d'avoir. Pour augmenter ses pouvoirs, il faut lire, il devrait être ici d'ailleurs, le bouquin de Bertrand Jounel qui s'appelle « Du pouvoir » pour bien comprendre.
Oui, j'ai pas pu, pardon, j'ai essayé de faire une petite sélection, mais c'est moi qui les ai portés depuis chez moi et c'est très lourd. surtout Alain Laurent. Alain Laurent, il est très très lourd.
Et le « Du pouvoir », il est un peu moins aussi gros que l'Alain Laurent. Ouais. Donc,
j'ai oublié mon Bastia et je suis vraiment désolé, je le mettrai la prochaine fois.
Voilà, mais donc vous voyez, il ne faut pas oublier que le libéralisme, c'est bâti sur l'idée qu'il fallait se protéger de l'État, mais qu'on ne pouvait pas vivre sans État. Donc on a trouvé une série de compromis crasseux. C'est pas un truc qui est particulièrement intelligent, mais c'est quand même un machin qui empêche l'État de faire du mal. Et comme, en particulier en France, il y a toute une série de gens qui pensent que l'État est bon, ils se disent, mais on n'a pas besoin du libéralisme, puisque l'État est bon. Mais ceux qui pensent que l'État est bon, ils ont un problème de lecture historique, parce que...
Il y a ça, et il y a aussi le problème de... Indépendamment du fait que tu puisses penser que l'État serait bon, en imaginant que tu as un État régalien, je ne vois pas pourquoi, en plus, il devrait s'occuper de ton commerce.
Ah, bien
pourquoi,
sûr.
Sous prétexte qu'il serait bon, bonne personne, apte à s'occuper des pauvres, des mendiants et des escarts, pourquoi, et des croûteux, pourquoi il serait apte à gérer les règles du commerce, qui est un boulot complètement différent.
Et pourquoi donc... il serait capable? Parce que le problème de l'État, c'est que, mettons qu'il se décide à produire des pâtes en boulettes, ou j'en sais rien, bon, ben, il va les produire mal, il va les produire, il va perdre de l'argent en produisant. Et donc, à aucun moment, il n'arrêtera de produire des pâtes en boulettes, parce qu'il peut toujours emprunter pour faire fabriquer des pâtes en boulettes. Et la beauté du capitalisme, c'est que le type qui fait des pâtes à roulettes mal, ben, il ne paye pas vite. Donc, il disparaît du marché, ce qui permet aux autres qui le font mieux de survivre et de monter. Donc, il n'y a pas de sélection naturelle dans l'État. Le drame de l'État, c'est qu'il n'y a pas ce que Schumpeter appelait la création destructrice. C'est-à-dire, ben, il y a un gars qui invente quelque chose et qui fout tout le monde en l'air, ce qui est bien triste, mon pauvre monsieur, mais c'est comme ça, quoi. Les fabricants de diligences, à partir de 1860, c'était pas terrible. Mais par contre, d'accord, c'était pas terrible. Mais vous vous rendez compte que les gens de Peugeot, les familles Peugeot et les familles Michelin, c'était des gars qui faisaient des roues, des je sais plus quoi pour les diligences. Et quand les diligences ont disparu,
ils se sont adaptés.
Ils se sont dit merde.
Ils n'ont pas continué à dire est-ce que l'État peut nous payer.
Est-ce que l'État peut nous acheter des roues de diligence dont personne ne se servira plus jamais. Non, ils sont adaptés. Ça a donné Peugeot et Michelin. Donc encore une fois, foutez bien la paix aux gens et ils s'en sortiront très bien. Quoi.
Donc, on aimerait quand même rappeler que le libéralisme n'est pas un anarchisme sauvage.
Au contraire, c'est le respect de la loi.
Et comme Hayek le disait effectivement, c'est un ensemble de règles de conduite.
Voilà.
Encore une fois, à partir du moment où on a admis qu'il y avait ces choses qu'on appelle les droits naturels, qui en général, dans nos États démocratiques, sont passés en droit positif, c'est-à-dire qu'on a légiféré sur ces principes comme le droit de propriété ou tous ces droits naturels, les droits de sûreté, sécurité. Donc un certain nombre de droits qui sont préexistants à l'homme, nos systèmes fonctionnent avec des droits positifs inhérents à nos droits naturels et qu'on peut trouver dans le préambule des constitutions générales. Donc, encore une fois, le libéralisme et tous ces droits naturels viennent du libéralisme. Donc,
et qui eux-mêmes viennent du christianisme, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, la rémunération de la prise de risque.
Le droit de propriété.
Le droit de propriété, vous avez qu'à lire les évangiles, la vigne et le maître, tout ça, tout est expliqué dans le détail.
Et aussi, ce qui est très important dans le monde libéral, c'est la notion de volonté, le contrat synalagmatique, la rencontre entre les deux parties. Et encore une fois, c'est basé sur un échange de volonté, et cet échange de volonté est au cœur de tout le système libéral. Encore une fois, il n'y a pas d'imposition de force, c'est parce que les volontés se rencontrent dans un système juridique harmonieux que peut naître cet ordre spontané, cette main invisible du marché qui permet, et encore une fois, c'est simplement se dire avec une certaine pudeur, que, après tout, c'est quand on laisse les gens bien faire ce qu'ils veulent que les choses vont bien, et que quand on enlève ces gros doigts fourrés, que aussi de l'État, que
c'est,
les
c'est
choses vont
ce qu'on disait quand j'étais
mieux.
Jeune en droit commercial, on disait le contrat, c'est la loi entre les parties.
Oui.
C'est-à-dire que le contrat entre deux parties avait valeur de loi. Or, aujourd'hui, vous remarquerez que l'État se permet d'intervenir dans les parties, pour favoriser l'une ou défavoriser l'autre. Et bien ça, c'est pas admissible. Ni de sa compétence, ni de sa juridiction.
Benjamin Constant écrivait que la liberté du libéralisme n'était pas celle de tout faire, et que l'individu a le droit de faire ce que la société n'aurait pas le droit d'empêcher. Et je trouve que c'est assez intéressant, encore une fois, on parlait de la GPA tout à l'heure, mais effectivement, il y a quand même une limite dans le libéralisme, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement tout faire, mais la société, à partir du moment où vous avez décidé de vivre en société...
L'État, le droit.
L'État du droit peut vous empêcher de faire certaines choses. Par exemple, l'autoservitude ne sera pas...
Et tout à fait. Par exemple, le droit français a toujours interdit la vente des organes.
Voilà. Il y a une imprescriptibilité du corps. On ne peut pas aliéner le corps. L'inaliénabilité du corps. Donc, à partir du moment où vous considérez dans votre droit positif que l'être humain... est supérieur.
L'individu ne peut pas aller contre l'être humain.
Voilà. Votre volonté contractuelle ne peut pas aller
Il y a tout un tas de libéraux qui disent
que
oui.
Il y a tout un tas de libertariens.
Et ça, j'accepte pas, moi.
Non, nous non plus. Le libéralisme, en général, est opposé à ça, puisqu'à partir du moment où il considère que la construction sociale dans laquelle vous vivez à un instant T est supérieure à votre volonté individuelle à ce même instant.
À ce même instant. Et vous pouvez le changer par des élections, ça c'est autre chose. Mais vous n'avez pas le droit de faire quelque chose d'illégal, comme par exemple de vendre vos organes, ou de vendre les organes de vos enfants, ou de mettre vos enfants en esclavage. Donc il y a toute une série de choses que, par exemple, dans le droit français, il y a toute une série d'endroits où vous ne pouvez pas établir de contrat. Ça n'est pas permis d'établir un contrat, par exemple, je vais te vendre un rein. Ça c'est pas permis, c'est pas... Ça n'existe pas.
Bref. Mais en fait, c'est presque une logique de Kant, parce que l'homme, dans le libéralisme, n'est pas un moyen, non. Il est une fin en soi.
C'est ça, mais c'est exactement ça.
L'homme avec
chaque
un grand
individu
H,
doit
chaque
trouver...
individu a en lui le pouvoir de devenir quelque chose ou pas, et d'en porter la responsabilité. Et
il est souverain sur lui-même.
Voilà.
Il est complètement souverain sur lui-même.
Et la société autour de lui... n'est là, quelque part, que pour elle aussi interagir avec lui de la même façon et ne pas le brider, effectivement, dans la mesure où lui-même ne contrevient pas aux voilà. limites que la société s'est auto-fixée.
Ben, c'est la vieille règle, ma liberté s'arrête ou celle des autres commence, quoi.
Ouais.
C'est, qui est complètement battue en brèche en ce moment par tout le mouvement woke qui est en train de dire « votre liberté s'arrête à partir du moment où vous me faites de la peine ben, ». Attendez une seconde, j'ai le droit de dire que vous êtes en train de faire une connerie, quoi. Donc c'est un... Donc ça veut dire que le libéralisme implique la complète liberté de parole. Il ne peut pas y avoir de censure.
Mais bien sûr que non.
Donc le libéralisme a inventé la fin de la censure.
Bah oui, de toute façon...
Il n'y a pas d'autre régime, dans tous les autres régimes, il y a toujours eu des censures. Là, le libéralisme, c'est le seul. C'est la liberté de parole...
La liberté d'expression est totale.
Bien sûr.
Alors après, si, bien sûr, ce qui peut arriver, c'est qu'à partir du moment où on deviendrait propriétaire, je suis propriétaire d'un journal, je peux considérer que c'est ma liberté aussi de ne pas avoir envie d'imprimer ça. Mais la personne, pour autant, a tout à fait le droit de le dire. Je ne veux juste pas l'imprimer. Ça, c'est ma prérogative.
À partir du moment où on est propriétaire. Mais ce qui pose le problème à ce moment-là, des gens qui ont quelque chose à dire et que les GAFA, par exemple, aujourd'hui, empêchent de parler. Alors, donc, probablement, ça va impliquer une action de l'État pour forcer les GAFA à respecter la liberté de parole.
Mais ça ne me paraît pas très clair, ça non plus, parce que...
Ben oui, on ne voit pas très bien comment... En principe, ils sont propriétaires, et pourquoi, donc ils mettent ce qu'ils veulent. Mais en même temps, comme maintenant ils sont devenus complètement dominants dans la diffusion des idées, est-ce que l'État doit intervenir là-dedans ou pas?
Non,
moi,
je
préférais qu'il y ait des nouveaux GAFA qui montent dans le
Moi aussi, on puisse. Ou alors qu'on scinde ces grands groupes et qu'on arrive à faire des choses avec plus de. Mais c'est le problème, parce que là, on est pratiquement dans un abus de position dominante.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'abus de position dominante? Ces trucs-là sont montés très très vite, ont des capitaux qui ressemblent à ceux de la Californie, au PIB de la Californie. Donc, c'est certainement pas aux États d'intervenir. De toute façon, le voudrait-il qu'ils ne pourraient pas, puisqu'on est des sociétés indépendantes. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, la seule façon, c'est effectivement d'avoir des sociétés concurrentes et de les contourner.
Voilà.
À terme.
C'est ce qui est arrivé. Quelque chose d'amusant, c'est qu'il y a Yahoo et AOL, AOL, qui étaient les sociétés dominantes dans l'Internet en 2000. Hein,
mm-hmm. Oui, au début.
Eh ben, elles viennent d'être vendues pour rien du tout à des groupes, parce que maintenant elles ne valent plus rien, alors qu'elles étaient dans la position des GAFA il y a 20 ans. Donc, en principe, le marché s'occupe de tout ça assez bien. Quand même.
Espérons que ça aille vite. Alors, autre point aussi, est-ce que le libéralisme est une doctrine de droite?
Ça dépend. Il faut définir. J'ai mal de chien avec la droite, quoi.
Historiquement, on va
historiquement,
dire. Historiquement, c'est
non,
faux.
Non, pas du tout, c'est faux, puisque Bastiat siégeait à gauche, à l'Assemblée.
Voilà. Benjamin Constant, il était le chef de la gauche libérale, donc il était à gauche. Tu avais Alexis de Tocqueville, qui était centre-gauche. Tu avais Léon de C., oui. Le petit-fils d'eux. Yves Guyot, à Troisième République, ils étaient à gauche. Donc, historiquement, les libéraux pré-révolution de juillet et révolution de juillet incluse, étaient à gauche.
Étaient à gauche.
Bastiat... Il a voté à droite, à gauche, même à l'extrême gauche parfois.
Et
quand
celui
il était pas
qui
content.
A créé Bastiat, curieusement, c'est lui qui a créé les bourses du travail. Donc l'idée, dans le fond, parce que c'était un bon théoricien, il disait si on met un endroit où l'offre de travail et la demande de travail peuvent se rencontrer, bon, ça marchera mieux quand même. Donc non, c'est, je dirais, le libéralisme, c'est ailleurs. C'est ni à gauche ni à droite, c'est ailleurs. Le libéralisme. Il cherche à promouvoir. C'est plutôt un phénomène. Je crois pas qu'il puisse y avoir un parti libéral, parce que les libéraux
ils sont pluriels.
D'abord,
il y a des libéraux
libertariens. Il y a des libéraux dans tous les sens. Donc,
il y a des libéraux minarchistes. Il y a des libéraux conservateurs.
Le libéral, c'est un animal curieux. C'est comme disait un de mes amis. C'est gérer des libéraux, c'est comme d'amener un troupeau de chats paître. Quoi. Les chats se baladent partout. Quoi.
On vient de passer 55 minutes à essayer de le définir
on est
par ce qu'il n'est pas. Donc déjà, et ensuite, sachant que à l'intérieur du libéralisme, parce que là, on essaie de faire il y a aussi des mouvances.
Donc, grosso modo, le libéralisme, c'est le règne de la loi, et la loi égale pour tout le monde. Donc, gros, ce que j'essaie de dire, c'est que probablement le pays le plus libéral au monde, c'est la Suisse.
Aujourd'hui.
Voilà. Pendant longtemps,
puisque
c'était l'Angleterre.
La votation se fait en référendum.
Et à l'échelle locale.
À l'échelle locale, que le peuple, effectivement, s'exprimait sur sa loi du territoire.
Est-ce que les Suisses sont à gauche ou à droite? Parce que ils sont suisses. Ils sont suisses et donc ils votent. Moi j'ai vu par exemple, ils votent sur. Il y avait eu des FADA qui avaient proposé de mettre le salaire minimum suisse à 4000 euros, à 4000 francs suisses, qui est à peu près la même chose. Et les Suisses ont voté, je crois, 60% contre en disant non mais ça va pas la tête, vous allez foutre en l'air nos entreprises. Et donc.
Ce qui est marrant, c'est que moi j'avais le souvenir quand j'étais petite que 400 francs français c'était 400 francs suisses et maintenant. 400 euros, c'est 400 francs suisses.
Oui, c'est-à-dire que le franc suisse est multiplié par 6 vis-à-vis du franc français. Voilà. Et l'État suisse est toujours à 30% du PIB depuis 50 ans, sans que les gens meurent de faim dans les rues, et la France est passée de 30% sous De Gaulle à 61% aujourd'hui. Donc il y a peut-être un rapport entre...
Qui sait? Qui sait? Qui sommes-nous pour le dire?
Qui sommes-nous? Et je me souviens de cette sénatrice socialiste qui avait été expliquée aux Suisses comment ils devaient gérer leur pays. Les Suisses les regardaient avec des yeux comme ça, quoi. Vous connaissez la blague, c'est un ministre français qui va voir les Suisses, qui se mord de rire, en disant, mais vous avez un ministre de la Marine, en Suisse. Et le Suisse qui le regarde, ben, lui dit, vous avez bien un ministre des Finances, vous.
C'est cruel, mais elle est bien. C'est cruel, mais elle est bien. en fait, Je pense que quelque chose qui est très important à noter chez les libéraux, c'est que aussi, comme parfois on a tendance à confondre le terme de libéral et conservateur, c'est important de dire que le libéral n'est pas pour autant un homme du passé, bien au contraire. Il est plutôt toujours pour les inventions scientifiques, déjà parce que c'est schumpeterien, donc pour une saine création destructrice, bon, donc il faut qu'il y ait création quand même. Mais en revanche, ce qu'on retrouvera chez tous les libéraux, je pense, c'est une essentielle et naturelle défiance envers le pouvoir, quel que soit le pouvoir temporel.
Absolument. Et les intentions du pouvoir l'inquiètent beaucoup.
Voilà.
C'est-à-dire qu'un pouvoir qui cherche à faire le bien, ça met un libéral dans un état second immédiatement en disant « quelle connerie va-t-il inventer encore ?»
En général, le libéral aura un problème aussi avec l'ordre hiérarchique. Oui. Assez souvent, il sera contre un nécessaire progressisme. C'est-à-dire, il n'acceptera pas le progressisme pour le progressisme. Et de même...
Il y a des tas de progrès dont le libéral considère que ce n'est pas du tout un progrès.
Bah non, si on fait preuve de bon sens, il y en a qui n'en sont pas.
Il y en a,
par exemple, les pistes cyclables d'Anne Hidalgo, je pense que pas mal de gens peuvent remettre la notion de progrès en question.
Oui.
Non, parce qu'il y a une question de bon sens aussi.
Une question de bon sens, tout à fait.
Donc, je crois que, en fait, très souvent, la droite traditionnelle, en tout cas en France aujourd'hui, veut se placer dans quelque chose, justement, veut conserver ce qui est. La gauche,
pour
elle...
Pour retourner au passé. Parce qu'il y en a tout un tas qui veulent retourner au village, à notre société locale. J'ai rien contre. Mais je veux dire, c'est un discours passéiste. Moi, ce que j'essaie de dire...
Non, mais ça, c'est parce qu'on est dans une époque malthusienne. Donc, tu as beaucoup de gens qui, au contraire, sont dans un déconstructivisme, justement, de bonne aloi, qui est de dire, il faut revenir, ainsi de suite. Mais on va pas... Enfin, moi, les gens me font rire, mais... On n'a pas les moyens de repasser 8 heures à cultiver 3 haricots.
Ou alors il faut remettre, il n'y a plus que 600 000 agriculteurs en France, il faut retourner à 30 millions d'agriculteurs.
Oui, mais
ils vont pas être contents. Hein. Les bobos, ils vont déguster. Hein. Ils vont avoir le dos cassé. Hein.
Et oui, et autre chose, le libéral accepte la nation.
Ah, complètement. Il pense d'ailleurs que la nation est absolument nécessaire pour qu'il y ait un système de loi stable. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où le système juridique peut être stable. Si vous avez un ordre international, ça change tout le temps et personne ne comprend rien. Donc non seulement il réclame la nation, pour lui la nation c'est l'endroit à partir duquel on peut bâtir sur le long terme. C'est ce qui fait passer le temps de 0 à 100 ans. Quoi. Donc la nation est absolument indispensable.
Voilà, donc le libéral n'est pas un anarchiste.
C'est pas un anarchiste, c'est pas un international, c'est pas un... C'est pas un main, quoi.
Non. Donc voilà, j'ai fait le tour, moi, de tous les petits...
On a quelques bouquins ici qu'il faudra que vous regardez. On va vous faire des photos. Ceux qui ont vraiment le courage, mais vraiment... Alors, il est difficile à lire, mais vous pouvez lire lentement. C'est « L'action humaine » de Von Mises. Bon, ça, c'est quand même un très grand. Hein. C'est quand même... C'est d'une réflexion par un homme tout à fait éminent. Sur l'ensemble de la société, les relations entre l'économie, la politique, etc. Vous en sortez pas vous en sortez pas pareil, quoi.
Bon, on aime beaucoup aussi, quand même.
Le brave Revel, Jean-François Revel, la démocratie libérale à la preuve du XXIe siècle, ça c'est dans le fond une espèce de revue de l'ordre Revel. On voit que dans le fond, le Revel était un libéral, mais je dirais un libéral, ce qui m'a toujours amusé chez Revel, c'est que il constate que le libéralisme marche, il constate que le capitalisme marche et tout, mais il comprend pas très bien pourquoi. Mais il dit, écoutez les gars, ça marche beaucoup mieux que le reste, donc on va faire ça si ça vous fait rien. Mais il est pas arrivé au niveau de compréhension, par exemple, d'un Von Mises sur la raison pour laquelle ça marche mieux. Donc ça, c'est très important. Alors, la route de la servitude, ça a été... Hayek était donc un professeur à l'université en Autriche, puis il a été viré, il est parti avec les Allemands. Il a été recueilli par Keynes, ce qui prouve à l'époque des gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Puis il est parti à l'université de Chicago. Et à l'université de Chicago, qui était très matheuse déjà à l'époque, ils ont trouvé que Hayek était trop bavard, trop littéraire. Et il a été, je crois, enseigné dans la faculté de sociologie. Et il a fait ce bouquin, qui est devenu un best-seller mondial, qui s'appelle « La route de la servitude », qui vous explique comment... On arrive lentement mais sûrement, en abandonnant ses libertés les unes après les autres, à la servitude. Donc c'est pour ça que notre institut s'appelle l'Institut des libertés, parce qu'il n'y a pas une liberté, il y en a des tas et que chacun doit se développer par lui-même. Alors Tocqueville, c'est un vieux classique de la démocratie en Amérique. Il montre l'effet. Les bouquins de Tocqueville sont intéressants parce qu'ils sont complètement différents. Prenez aussi l'Ancien Régime et la Révolution. Il vous parle de la Révolution sans vous citer une seule fois ni les noms des grands révolutionnaires, ni les événements importants. Parce que son boulot, c'est d'essayer de montrer comment les institutions en dessous vont porter la société. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique très bien pourquoi les États-Unis vont réussir. Parce que c'est des sociétés, dans le fond, extraordinairement individualistes, extraordinairement religieuses et extraordinairement locales. Donc ça, c'est vraiment un des grands classiques. Il n'y a pas de problème. Alors vous avez... Oui.
C'est vraiment rond.
Ça, c'est Raymond Aron, bon, l'opium des intellectuels. Moi, j'aime beaucoup Raymond Aron, mais je vais faire une petite critique. Il écrivait comme un Allemand, c'est-à-dire que c'était compliqué, quoi. Moi, j'aimais bien Revel qui écrivait comme un Français. Raymond Aron, il faut de temps en temps le lire avec un crayon, parce que, pour essayer de traduire
Un
ce qu'il veut
crayon.
dire. Il est très balèze.
Ça, on aime bien, mais c'est velu.
Ça, on aime bien, mais c'est velu. Karl Popper, alors Karl Popper, c'est le gars qui a expliqué quel est... dans ce livre qui s'appelle Sire, surtout ne faites rien, je fais toute la première partie sur les conditions, la
La société
société
ouverte.
ouverte. Donc ça, c'est... Alors, il faut se méfier de Schumpeter, Karl Popper, tout ça, c'était des gars qui étaient de Vienne. Alors, ils ont beaucoup écrit sur Marx, parce que c'était à l'époque l'ennemi. Dans le livre de Schumpeter qui s'appelait Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui doit faire 350 pages, je ne sais pas combien, les 150 premières pages sur la sociologie de Marx. Alors là, c'est un Allemand qui écrit sur un autre Allemand, donc c'est bien compliqué. Donc, pour ceux qui veulent lire le livre de Schumpeter, qui n'est pas ici, mais commencez après Marx, quoi, parce que après ça devient
C'est
intéressant.
comme dans Le Seigneur des Anneaux, faut sauter la partie sur le Hobbit, les
Voilà,
100 premières pages.
le Seigneur des Anneaux, on commence à la 150e page, quand ils partent avec son anneau à commencer à crapahuter dans la campagne, là ça
Parce
va
que
aller
les 8
avant.
repas chez les Hobbits, ça devient un peu longué.
Je comprends, il aurait
Le
voulu que
premier était
personne
petit
lise,
déjeuner, le
le
deuxième petit
petit
déjeuner.
déjeuner, ça devient un peu long, c'est ça. Et puis là, vous avez deux ou trois bouquins, mais
Oui.
celui-ci, eh bien, c'est...
Donc ça,
Alors,
un vrai travail de collectif.
c'est un vrai boulot, ça, mais... Ça, c'est pour les passionnés qui veulent vraiment tout comprendre.
Et ça aussi.
Et ça aussi, c'est,
Le dictionnaire
bon,
du
le
libéralisme.
dictionnaire du libéralisme. Vous verrez que le libéralisme est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps et qui continue à prospérer un peu partout. Et je vais terminer par une petite anecdote. C'est que, juste avant Tiananmen Square, le massacre là, j'étais en Chine. Je suis parti 2 jours avant parce que je me disais, ça pue, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais pas à l'aise. Donc on a pris l'avion avec ta mère et on s'est barré. Alors qu'on en avait encore pour 4 ou 5 jours. Et
Mais
j'ai
vous
reçu.
étiez en Chine, ou vous étiez à
On
Hong
était à
Kong?
Pékin.
Ah, vous étiez à
On
Pékin.
avait notre hôtel dans la cité interdite, on était reçu très bien. Et là, je discute avec un économiste chinois qui avait été à Chicago, un élève de Milton Friedman, parce qu'il y avait des gens très très bien formés. Alors j'ai dit, c'est intéressant, parce que comment vous pouvez faire pour réconcilier Chicago et le marxisme-léninisme, quoi, c'est bon. C'est un peu dur. Il m'a dit, non, moi je suis un monétariste marxiste. Qu'en Chine. Hein.
Oui,
Donc,
only in China.
in China. Donc le gars, il était marxiste, mais parce qu'il fallait l'être, parce qu'il fallait éviter la connerie habituelle. Mais dans la pratique, il était monétariste, il comprenait très bien comment ça se passait. Et c'est ça que les gens n'ont pas du mal à comprendre en Chine, c'est que dans le fond, il y a le dogme auquel tout le monde. Mais dont tout le monde se contrefout finalement. Et puis ensuite, il y a la pratique, et la pratique est probablement beaucoup plus capitaliste qu'en France. Donc les gens disent, mais comment pouvez-vous être favorable à un régime communiste? Ben, je dis, la différence, c'est que nous, on est un régime communiste et on est officiellement capitaliste. Et eux, ils sont un régime capitaliste, mais ils sont officiellement communistes. Ben, faites votre choix, moi, c'est, je sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que les institutions chinoises ne peuvent pas ne pas amener à terme à un monde différent du monde marxiste. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.
Et
Et
vraiment.
n'oubliez pas de vous inscrire, même si on est à 100 000.
Ouais.
101 000.
Ouais. Effectivement, on a dépassé la barre de 100K sur YouTube. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Et j'espère que cette espèce de petite leçon sur le libéralisme vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions en bas. ou de nous poser des questions sur le site aussi de l'Institut des Libertés. On sera toujours ravis de les prendre et d'y répondre. Et surtout, j'ai oublié le Bastia, mais aussi lisez Bastia, c'est une pépite.
Ne serait-ce que pour bien écrire en français, vous lisez Bastia et Tocqueville, et votre style en français s'améliorera de façon prodigieuse.
Voilà, et comme dirait Papacito, pourquoi tu dois lire Bastia? Tu dois lire Bastia parce qu'il a la stricte crédibilité, Charles l'a dit. Et déjà, le gars, il écrit comme si 1848, c'était hier, donc déjà. Et deuxième point, c'est un landais. Donc quand il est fâché, il va couper des pains et il revient.
Il
Voilà.
revient. Mais ce qui est amusant avec Bastia, c'est qu'il a la tête d'un trois-quarts landais, quoi. Il ressemble à Dourthe, qui était un joueur de l'équipe de France de ma jeunesse, quoi.
Donc, lisez Bastia, honnêtement, ça, c'est facile à lire, c'est agréable. Et je l'ai oublié, donc je me sens redevable.
Elle a amené les gros, c'était.
Bah, oui, c'était très lourd.
C'était très
Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, on espère.
Voilà.